Merci beaucoup, Vanessa. Merci à aux organisateurs de cet événement, spécialement à l'invitation que Vanessa m'a adressée directement. Merci à tous les présents. Donc, je vais un peu lire un texte pour ne pas trop dépasser le temps, ne pas me perdre dans beaucoup d'idées que je voulais partager avec vous. Et si vous avez une structure de ma présentation, donc on a demandé que je parle qu'est-ce que c'est la muséologie, mais j'ai tendance à penser qu'il est plus facile de dire à quoi elle peut servir, car la muséologie sociale refuse exactement ces modèles et classements. Elle se définit comme insoumise et indisciplinée, donc la classer, c'est déjà contradictoire. Les principaux acteurs et références de la muséologie sociale ont évité de la définir et préfèrent le ton de provocation. Même lorsque ces agents sont du monde universitaire, il y a une tendance à offrir l'espace de protagonisme aux agents de terrain et à valoriser la multiplicité des pratiques au lieu de les encadrer dans les définitions qui finissent par exclure ce qui n'a pas encore été imaginé. En ce sens, il me semble peut-être plus simple et faisable de vous parler des bases de la muséologie sociale et à quoi elle peut servir. Le désir d'une muséologie engagée, non seulement dans les collections, mais à la transformation sociale, existe au moins depuis le milieu du XXe siècle. Avec la nouvelle muséologie qui a émergé en France, de nombreuses expériences forgées à partir d'une nouvelle compréhension du musée ont eu lieu, une compréhension plus large. Elle couvre non seulement la relation entre les publics et les collections rassemblées dans un bâtiment, mais entre la société et son patrimoine dans un territoire, comme vous voyez là dans ces schémas. Cette photo de l'écomusée du Creusot, en France, représente bien son appréhension d'autres patrimoines, les défis d'une muséologie biophile, en contraposition avec la muséologie nécrophile, consacrée uniquement aux objets. Le mouvement international pour une nouvelle muséologie, le MINON, créé en 1984 au Québec, déclare en 2017 qu'une muséologie qui n'est pas utile à la vie et une muséologie qui ne sert à rien. La muséologie sociale radicalise la nouvelle muséologie dans le sens d'aller plus à la racine de la problématique de l'égalité des chances et de justice sociale, en s'assumant encore plus engagée et militante. Cependant, l'histoire des musées nous montre que depuis toujours, ils ont pu être espace de conscience critique et de résistance. Comme vous voyez ici, c'est une exposition au Musée de l'Homme à Paris. Dans les années 1960 et 70, il existait déjà des acteurs comme Hugues de Varine, qui parlaient de décolonisation culturelle des musées. On pense que c'est une chose nouvelle, mais vous voyez, il avait écrit à ses propos dans les années 60. Et de l'aspect politique des musées communautaires. Je vous laisse lire la petite citation. Donc, le travail communautaire, y compris, c'est quelque chose qu'il a parlé à l'oral, ok? Y compris la muséologie communautaire est un travail hautement politique et cela ne va pas nécessairement dans le sens de la politique des autorités. C'est un travail politique ressenti comme délinquant et subversif par les autorités. Ça, c'était déjà 30 ans avant. En opposition à une muséologie classique centrée sur les objets, elle donne visibilité, donc droit à l'existence, aux groupes sociaux les plus fragilisés. Ces groupes reconnaissent les musées comme plateforme, comme instrument de lutte. Le troisième élément de la relation est, dans ce cas, pas un seul bâtiment, comme on a vu dans le premier schéma, mais le territoire. Il n'est pas compris comme un territoire pacifié, mais dans une logique de lutte pour l'espace, lutte pour la terre et pour le droit au logement, pour l'égalité des chances. Le corps peut être aussi compris comme un territoire dont l'existence est parfois niée. Les corps féminins, racisés, LGBTQA+, ont été historiquement invisibles dans les récits des musées. La muséologie sociale se soucie de rétablir leur protagonisme, l'espace pour parler en première personne. Le concept de développement durable est généralement associé aux axes économiques et environnementaux, mais selon Ibermuseos, un organisme ibéro-américain du monde muséal, il possède également les volets social et culturel, qui était peu parlé aujourd'hui. L'axe social du développement durable implique la lutte pour la disparition des grandes inégalités sociales, donc les musées en tant que promoteurs de l'inclusion sociale. En ce qui concerne l'axe culturel, les musées s'engagent à promouvoir la diversité culturelle et la population locale en tant que lien entre les passés, présents et futurs. Promouvoir la diversité culturelle signifie la reconnaissance d'autres rapports avec la réalité, d'autres façons d'habiter le monde et oser s'ouvrir à de nouvelles épistémologies. D'un point de vue des cosmologies et des épistémologies amérindiennes, le concept de développement durable est trop anthropocentrique, car il est centré uniquement sur l'être humain. Les regards autochtones amérindiens refusent la distinction ontologique entre nature et culture, entre humain et non humain, et comprend l'existence d'une communauté de vie dans laquelle les différents organismes demandent la durabilité sans que celle-ci puisse être soumise aux besoins humains par développement. En ce sens, il est indispensable d'apprendre des cultures de Abyan Yala, nom natif de l'Amérique, sur la notion de « bon vivre », une alternative au développement définie par Alberto Espinosa dans son livre « Le bon vivre pour imaginer d'autres mondes » comme les bases d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature, en rupture avec la dégradation engendrée par les modèles économiques fondés sur la consommation et la croissance. En pratique, je vais donner quelques exemples, à commencer par les musées du déplacement, Museu das Remoções, à Rio de Janeiro, Brésil. L'espéculation et gentrification des zones urbaines sont des obstacles à la culture durable. Son action s'intensifie lors des événements globaux comme les Jeux olympiques. Pendant la préparation pour Rio 2016, des bidonvilles ont été délogés et détruits pour la construction de la ville olympique, mais pas sans résistance de ses habitants. Ils ont réussi à garder quelques dizaines de maisons et aussi des ruines. Ces vestiges d'insurrection ont été signalés en formant un musée de parcours, qui a été appelé Musée du déplacement, avec la devise « Mémoire ne se déplace pas ». Ses habitants ont aussi réalisé des interventions dans la signalisation urbaine à finalité touristique qui mettait en évidence, vous voyez ici, qui mettait en évidence les hôtels et les parcs olympiques, mais qui faisait taire l'existence de la Villa Autódromo, nom de l'ancienne favela. Au Musée Histórico Nacional, à Rio de Janeiro, la collection raconte l'histoire de l'urbanisation de Rio de Janeiro, qui, à la fin du 19e siècle, avait déjà délogé une partie de la population. Cette première expulsion est à l'origine des favelas. Comme d'autres musées traditionnels brésiliens, ce musée est sensible à la muséologie sociale. Et il a réalisé un partenariat avec les musées de déplacement pour accueillir dans ses collections des objets et des ruines qui témoignent de la gentrification récente, ce qui permet de créer des expositions qui posent en perspective de longue durée les problèmes de la spéculation immobilière, du logement et de la violence d'État. Vous voyez ici, ici Penha, c'est la dame que vous avez vu deux slides avant, en train de subir une violence de l'État. Les expériences des musées ici sont les directeurs de deux musées nationaux, du Musée de la République et du Musée historique national. Donc, les musées traditionnels sont en contact avec ces initiatives communautaires. Les expériences des musées communautaires et des écomusées sont-elles en développement qu'au Brésil? Non. Regardons quelques actions en Europe. D'abord, le projet EcoHeritage. Le projet EcoHeritage, financé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne de 2020 à 2023, avait par objectif contribuer à la sensibilisation et à la consolidation des écomusées en tant que modèle de gestion patrimoniale durable et collaborative pour le développement et la cohésion sociale des communautés rurales. Il a construit une cartographie approfondie des écomusées existantes dans les pays participants, Portugal, Espagne, Italie et Pologne. Un manuel de bonnes pratiques et des stratégies pour les écomusées, des outils et des modules de formation pour la gestion participative du patrimoine et la construction d'un réseau en ligne, que vous voyez maintenant, des écomusées en Europe. Ce réseau est ouvert et si vous avez intérêt, vous pouvez vous abonner et participer des échanges. Un autre exemple est le Museu do Cimento à Catane, Italie. Le texte que vous voyez là-bas discute des intérêts de la mafia sicilienne en matière d'environnement, montrant comme l'existence de biens communs et des choses non marchandisables les contrarie, ou la contrarie. La mafia s'approprie de toutes les ressources disponibles sur le territoire du Cimento, y compris le fleuve lui-même. Et tout ce qui pourrait devenir une entreprise, comme la gestion des déchets. Sa négligence à cet égard, cependant, a conduit à ce qu'au début des années 2000, la Sicile a déclaré l'état d'urgence avec un taux de moins de 2% de recyclage des déchets. Le gouvernement local, en association avec la mafia, a proposé la construction de grands incinérateurs, même si ça soit une région protégée, naturelle protégée, qui bénéficierait de la poursuite des faibles taux de recyclage. Des protestations contre les incinérateurs ont commencé à se produire. Oh, pardon, c'est ici. Entraînant l'annulation du projet des incinérateurs et l'enquête qui a conduit les gouverneurs de la Sicile à la prison par association avec Cosa Nostra. La création de l'écomusée du Cimento résulte également de cette mobilisation populaire. Les musées et les défis de la décroissance. Bon, pour ne pas parler uniquement des musées qui sont déjà apparus à partir des principes de la muséologie sociale, je pense que c'est intéressant toujours de parler de l'influence de la muséologie sociale dans les musées traditionnels. La décroissance et la désaffectation sont encore des sujets tabous dans la muséologie, en particulier dans le monde francophone. Je peux vous dire que dans le monde nordiques, scandinaves, spécialement aussi Pays-Bas, Royaume-Uni, la compréhension est un peu différente aussi au Brésil, mais pour vous dire un peu comment la chose se passe en Europe. Mais il faut penser une muséologie durable. Dans ce sens, les petits musées locaux devraient être privilégiés par rapport aux entreprises à fort impact. On vient de parler dans la table ronde précédente, comme les petits musées à faible moyen sont beaucoup plus professionnels pour le recyclage, la récupération, et je suis vraiment d'accord que l'impact vient des riches. À fort impact, ainsi que les musées de proximité, ou privilégier les musées de proximité en place de se destiner à un tourisme privilégié qui se déplace au gré d'un calendrier d'exposition. La décolonisation, avant de passer un peu à la question de la décolonisation, je voulais dire qu'ici se trouvent 3 étudiantes en muséologie de l'Université de Liège qui sont vraiment en train de rechercher des sujets un peu liés aux questions qu'on discute ici. Donc, je pense qu'on a un beau avenir pour la muséologie belge. Il y a même un mémoire au sujet de la décroissance des collections muséales. La décolonisation est souvent réduite à la restitution, qui d'ailleurs, à mon avis, n'abandonne pas l'idée de placer les collections au centre de l'action des musées. Les objets personnifiés sont transformés en trésors à garder, accumuler et protéger au détriment des vies humaines qui semblent importer moins. Le processus plus complexe est la décolonisation des mentalités. Ça n'a rien à voir avec un pays qui était dominé territorialement et militairement par un autre. Par exemple, la domination des États-Unis dans toute l'Amérique latine est évidente, même si on n'était jamais colonie officielle des États-Unis. Et les rapports de domination et de colonisation dans un même pays, les patriarcalismes, racisme, xénophobie, etc. Donc, en effet, il faut penser décolonisation d'une façon beaucoup plus large. Nous pouvons commencer par la valorisation de la sagesse ancestrale des peuples originaires de l'Amérique et de l'Afrique, ainsi que des descendants de la diaspora. Une chose qu'on ne fait pas beaucoup, parce qu'on a aussi la colonisation des savoirs et une asymétrie de comment on apprend l'épistémologie d'autres. On a vu ici qu'il y avait même dans les années 30 ce projet de Le Corbusier pour un musée à croissance illimitée. Donc, il semble que cette mentalité continue encore dans le monde du musée, même si le reste de la société est appelé à avancer dans le sens de la décroissance. Les musées pensent qu'ils peuvent continuer dans cette pensée. Nego Bispo propose à la place de développement, envolvement en portugais, ou enveloppement, dans le sens de mise en relation, à la place d'échanger, partager. Il revendique la possibilité de créer des contre-concepts et des contre-mots pour une pensée et une nation contre-coloniale, où le plus important ne sera pas la théorie, mais la trajectoire. Pour lui, la contre-colonisation serait l'antidote contre le poison de la colonisation. L'idée d'empoisonnement des relations sociales, des politiques de mort et d'élimination des corps subalternisés est présente dans de nombreux intellectuels contemporains comme Achille Mbembe. Il est surprenant que la francophonie, qui a vu naître dans les années 60 et 70 et 80, la nouvelle muséologie, la muséologie de la rupture et l'altermuséologie veulent, ces derniers temps, replacer au centre du travail des musées les collections. Alors que la définition des musées de l'ICOM affirmait déjà depuis 1974 l'affirmait déjà, en tant qu'institution au service de la société et de son développement, pas au service d'une collection. L'actualité exige l'adoption d'une autre logique des musées plus en phase avec les défis climatiques et sociétaux, des institutions suffisamment courageuses pour mettre en question leur désir d'expansion infinie, d'accumulation, sa voracité, ses pratiques prédatrices. Ces questions ne sont pas nouvelles dans les champs muséales. Elles ne sont toutefois pas profondément incorporées à la formation des nouveaux professionnels. Dans les universités, on essaie encore de former pour la reproduction des erreurs des générations passées. Pour terminer, je vais faire deux invitations et donner une nouvelle. Donc, une nouvelle est que hier, l'ICON a lancé un prix pour des bonnes pratiques des musées et développement durable. Et je vous invite à poursuivre ces dialogues et à connaître les vrais acteurs de terrain lors de la conférence du Mouvement international pour une nouvelle muséologie à Catane, Italie, en février 2024, et aussi dans le nouveau comité international des nouvelles muséologies qui vient d'être, des muséologies sociales qui vient d'être approuvé dans le Conseil international des musées. Je vous laisse mon contact et la référence d'œuvres qui était au départ de notre présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble qu'on a encore quelques minutes.
Je vous propose de passer le micro pour les questions. Y en a-t-il?
Est-ce qu'il y a ici des professionnels ou étudiants du champ muséal, sauf mes trois anciennes étudiantes à l'Université de Liège? Okay. Bon. D'autres? Non.
Dans ce cas-là, je vais me permettre de poser une question.
Oui, donc je félicite Manuela Duarte pour son exposé vraiment excellent. Mais peut-être une chose qui n'y a pas été expliquée au début, c'est le mot muséologie. Pour beaucoup de gens qui ne font pas partie du monde des musées, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être expliquer.
Les mots?
Oui, muséologie.
Oui. Donc, il y a différentes conceptions des muséologies, même une conception qui, à mon avis, est trop dépassée, que la muséologie est l'étude des musées. Je préfère dire que la muséologie est l'étude d'une relation, et c'est pour ça que j'ai commencé avec un schéma où j'ai mis public, bâtiment, collection. Donc, c'est cette relation-là. Mais ici, c'est déjà une version nouvelle, disons, de cette relation. La version traditionnelle est une relation entre un public et visiteur et une collection dans un bâtiment. Donc, tous les mouvements de renouvellement de la muséologie, on peut continuer à penser dans ces trois piliers, mais en pensant plus large, l'élément humain comme toute la population d'un territoire, le territoire où cette population habite et produit un patrimoine, et le patrimoine aussi d'une façon intégrée, pas uniquement les objets qui sont décontextualisés et mis dans les bâtiments, mais aussi toutes les références patrimoniales qui sont autour du musée, qui peuvent être considérées ressources pédagogiques, ressources pour le travail muséal.
Merci pour votre exposé, c'est très intéressant. J'ai une question pour vous, c'est quoi votre vision de l'expertise, de l'expert au sein d'un musée, dans la nouvelle muséologie, votre vision à vous?
Ah, ça c'est un questionnement très profond, particulièrement au Brésil, où la profession de muséologue est une profession reconnue par la loi. Et donc, uniquement les personnes qui ont un bachelier un master ou un doctorat en muséologie peuvent exercer cette profession. Et moi, qui j'ai une trajectoire complètement différente, même si après j'ai eu la chance de faire un doctorat en muséologie, mais au départ, non, je pensais que c'était déjà très exclusif pour les gens qui se disent très muséologie sociale. Donc, comment on peut dire que la population construit ses propres musées, est responsable par les musées, mais ils vont travailler comme bénévoles pour ces musées? Parce que pour avoir un contrat, être engagé par les musées, il faut être muséologue. Ça, c'est une contradiction qui, au Brésil, je pense qu'est encore plus grave peut-être qu'ici. Mais donc, ces genres de musées, comme les musées Museu das Remoções, musées de déplacement que vous avez vu, ils fonctionnent surtout sur base du bénévolat des gens qui sont intéressés, qui trouvent qu'il est important, mais qui font ça dans leur temps libre, disons. Et qui sont des personnes pauvres au Brésil, parfois ont 2, 3, 4 emplois différents, donc aux petits travaux. Et donc, tous les horaires, toute la dynamique, la régularité du musée est conditionnée aussi pour ces manques de ressources humaines. Aujourd'hui, on essaie, et aussi dans la formation en muséologie au Brésil, d'associer les connaissances, la pratique, la militance, et spécialement les compromis que ces personnes ont, parce que les musées font partie de leur vie, dans la formation et d'amener les étudiants à travailler ensemble, se mettre à disposition comme si on est un outil méthodologique ou technique pour aider les besoins d'un groupe, mais c'est le groupe qui est le protagoniste et qui prend les décisions. Donc l'expertise est plutôt une expertise qui est mise à disposition du groupe qui a pris l'initiative et qui doit finalement gérer ces petits musées. Dans les musées plus formels et dans les cadres d'emploi vraiment, d'engagement, spécialement dans les musées publics, normalement il y a d'autres règles qui sont beaucoup plus exclusives, malheureusement.
Bonjour, merci pour l'exposé. J'ai une petite question. Vous avez cité des projets passionnants au Brésil, en Italie, ailleurs. Vous citez Jacques Hénard, quelques grandes références. Mais en Belgique, quel est le musée qui, selon vous, représente le mieux cette nouvelle muséologie en Flandre, si vous ne voulez pas vexer des gens éventuellement dans la salle?
J'avoue que en France, et je pense que la Belgique est un peu liée à ça, aujourd'hui, la nouvelle muséologie, comme elle était née aux années 60, est toujours associée à une génération un peu des hippies des années du mai de 68, etc., et qui ça n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Les écomusées sont morts, les musées communautaires n'existent plus, la nouvelle muséologie est morte, etc. Et je pense que malheureusement, dans l'enseignement, on a eu un peu ça ici, de ne pas transmettre la continuité de cette tradition d'une nouvelle muséologie qui n'est même plus nouvelle. Mais j'ai eu la joie de découvrir un musée qui a apparu d'une façon complètement différente et qui, à mon avis, elle est plus proche de ce que je connais, peut-être que je connais encore peu, de la muséologie sociale, qui est le musée de la migration à Bruxelles. Donc, il est maintenu par une ASBL, les foyers qui donnent un soutien social aux immigrants et réfugiés, même un soutien juridique et sauf erreur, logement dans certains cas, etc. Et les foyers, peu à peu, ont compris exactement ce potentiel du musée comme un instrument de visibilité de leurs questions. Et dans les quartiers de Molenbeek, qui vous savez, avec beaucoup de défis du point de vue social, d'intégration, etc., Et donc, ils ont créé un musée, mais vraiment sans aucun contact avec la muséologie en tant que champ d'étude ou même législation, bibliographie, référence. C'est vraiment intuitif, mais je trouve un exemple excellent. Donc, il est maintenu par cette SBL, n'est pas soutenu par gouvernement, même si je pense qu'il a les conditions, les exigences minimales pour avoir un soutien, mais peut-être ce sont des prochaines étapes. Et par contre, je vois qu'il y a parfois des nouvelles, que le gouvernement veut créer un musée de l'immigration à Bruxelles, mais une chose qui peut-être, si j'ai bien compris, va être un peu en concurrence avec les musées déjà existants. Et je suis surtout pour donner soutien aux expériences déjà existantes, spécialement une comme celle-ci, qui est vraiment très enracinée dans les quartiers, avec beaucoup de participation bénévole même des différents migrants, parce qu'ils se sentent aussi un peu en dette ou intéressés à faire vivre cette SBL et ces initiatives comme le musée. Donc, je pense qu'il y a cette question aussi d'un musée qui l'offre tellement que c'est un peu naturel. Je sais que c'est un mot compliqué parler de naturel, mais c'est un peu naturel que certaines personnes se sentent intéressé de donner un retour, donner une collaboration, soit sous forme de bénévolat ou une autre. Je suggère que vous allez visiter.
Une autre question?
En fait, ce n'est pas une question pour Manuela, mais c'est plutôt pour l'auditoire. Donc, comme moi, je travaille aussi dans les musées et passionnée justement par le lien entre le patrimoine et l'identité culturelle. Je remarque quand j'ai essayé de faire des projets mixtes, donc relier l'histoire du patrimoine avec des centres culturels. Et c'est très difficile, en fait. C'est très difficile. Enfin, moi, j'ai pas eu une bonne expérience, et donc c'est plus vis-à-vis, puisque vous êtes surtout vous dans le secteur centre culturel, art de la scène, etc. Pourquoi est-il difficile d'intégrer une pratique muséale dans les pratiques artistiques ou culturelles ou de diffusion ou de communication? En fait, c'est plus une question vis-à-vis de vous. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Par exemple, un exemple, j'ai travaillé sur le parc Croix-Baudouin à Jette, qui a toute une histoire, c'est un magnifique site, parc, mais qui a vraiment une histoire. Et si on veut comprendre pourquoi les chemins sont comme ça, pourquoi il y a ceci, etc., il faut rentrer dans l'histoire. Et donc, on a pu profiter d'un budget justement financé pour le Covid, pour pouvoir faire tout un événement audio guide, etc. Mais on voulait aussi que ça s'intègre aussi dans les dynamiques du centre culturel là-bas. Eh bien, on a dû travailler tout seul, et puis on a fait notre boulot, et puis après, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors qu'au contraire, c'était une magnifique manière, en travaillant sur l'histoire, en la mettant en valeur, en la faisant vivre, de créer au niveau des gens du territoire ce sentiment d'appartenir à un lieu, de mieux le comprendre, de mieux le vivre. Et donc, voilà, j'ai senti souvent cette difficulté de pouvoir... ce sont des mondes qui sont trop séparés les uns des autres, je trouve. Enfin, c'est mon expérience.
Une réaction?
J'ai compris que c'est une question pour l'audience, pour que vous discutez. Mais en tout cas, pour faire un petit commentaire, on a un peu parlé pendant les repas de cette tendance à une pensée très cloisonnée du monde francophone, belge, et, qui est très différente comme tu as vu en personne en Amérique latine. Et en fait, j'ai donné un exemple des pontos de mémoire, points de mémoire, qui est une initiative du ministère de la Culture du Brésil pour donner un peu des alternatives, espaces et activités culturelles dans les quartiers plus défavorisés des métropoles brésiliennes, donc susceptibles de violences, trafic de drogue, etc. Et le programme Pontos de Mémoire au Brésil était financé par le ministère de la Justice. Donc, c'était un partenariat entre deux ministères, parce que le ministère de la Culture avait l'idée, et les gens qui connaissent bien la muséologie sociale et son potentiel, mais pas l'argent pour financer l'implantation des points de mémoire. Et c'est une chose que, malheureusement, c'est difficile à imaginer ici, exactement, parce que les choses, les budgets, etc., sont vraiment très, très, très séparés. Là aussi, les budgets sont séparés, mais on peut faire des accords de collaboration interministérielle, etc. Donc, c'est une chose, pour revenir à une référence que j'ai mise ici, un monsieur afro-brésilien, Nego Bispo, qui vient de décéder cette semaine, et qui dit, dans notre culture, dans leur culture, spécialement des descendants des gens esclavisés, qui s'appellent quilombolas au Brésil, dans leur culture, tout est circulaire. Il fait une image avec ça, il a dit « la samba est circulaire, la capoeira est circulaire, tout est circulaire ». Et la francophonie est marquée par une pensée très linéaire, cartésienne, etc. Peut-être s'ouvrir à apprendre, à échanger les expériences, j'apprends beaucoup aussi à m'organiser, à être un peu plus rationnel dans certaines choses, mais peut-être il y a un rapport de pouvoir qui empêche la pensée européenne à s'ouvrir à ces épistémologies différentes qui pourraient être riches aussi pour donner de nouvelles idées.
Est-ce que, tu en as parlé, chez nous, on est dans une muséologie très ancrée sur la collection, moins sur l'humain. On a parlé dans la table ronde de l'importance de faire revenir peut-être d'autres professions dans le musée, notamment la muséologie. Moi, j'ai toujours envie de parler de médiation, qui, je trouve, pour l'instant, est le petit frère dans les musées. C'est toujours un peu le second rôle. La place prédominante revient au conservateur. C'est lui qui va développer tout le programme scientifique du musée. Et puis, on vient rajouter la médiation en second lieu. Est-ce que cette muséologie sociale, ce ne serait pas l'occasion de peut-être repenser notre pratique en reprenant l'humain au cœur de notre cadre de travail? Et puis, moi, j'aurais aussi envie, à titre tout à fait personnel, de se poser la question de faut-il continuer à penser seul, de notre côté, à des pratiques à mettre en place pour un quartier, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe dans ce genre d'exemple, ce sont toujours des projets qui sont construits et qui répondent à une demande de la population. Au lieu d'être pensés pour la population, avec un côté qui reste très paternaliste, et un peu colonial, disons-le, oui. C'est repenser totalement notre rapport à l'autre à travers le musée comme espace de partage. Et plus ce côté un peu condescendant qu'on a pu avoir et qu'on peut encore avoir de temps en temps, de se dire on va éduquer la population et je vais faire ça pour eux. Voilà, ça c'était un peu ma réflexion après tout ce que tu nous as présenté. Et si des réactions sont encore là dans le public, je passe le micro bien volontiers.
Merci de partager cette réflexion, Vanessa. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que malheureusement, l'éducation muséale, même la médiation, peut-être je connais moins comment elle est réalisée ici, mais on a aussi encore une tradition de visites guidées, un peu cette idée de transmission des connaissances qui est un peu verticale ou unidirectionnelle. Et je préfère penser à un partage des connaissances, donc dans la base de ma pensée pour l'éducation muséale, on peut trouver la pensée de Paulo Freire, l'éducateur brésilien, qui parle de la pédagogie de la libération, qui a écrit un livre traduit en français, La pédagogie des opprimés. Et donc, je préfère penser l'éducation comme une construction ensemble de nouvelles connaissances. Merci.
Merci à toi.